Voici que nous arrivons à la sixième unité de notre cycle d'études sur l'Église et moi. Il s'agit des conflits. Les conflits dans l'Église, mais nous allons les voir en tant que facteurs de trouble, de difficulté pour la vie d'Église. Dans notre Église, comme dans toute Église, comme dans tout groupe humain d'ailleurs, il y a des différences de point de vue, de culture, de manière d'être, et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas du tout à rêver d'une Église où on serait tous du même avis, où on penserait tous de la même manière. Mais ces différences, si elles ne sont pas en elles-mêmes des conflits, peuvent très facilement donner lieu à des tensions, à des conflits, et cela va être l'objet de notre étude. Permettez-moi tout d'abord de faire tout simplement un petit florilège des quelques textes, de quelques mots utilisés dans deux textes de l'apôtre Paul. Premièrement, les actions de la chair, de Galates 5, 19. Alors, il faut bien comprendre, bien sûr, que la chair n'est pas simplement le corps. Dans l'expression, dans l'usage de Paul, le mot désigne la nature humaine. C'est d'ailleurs comme ça que le traduisent certaines versions de la Bible. La nature humaine qui, pour le coup, est désignée ainsi comme étant marquée par le mal. Donc, quand on dit les actions de la nature humaine, ça ne va pas être une très belle liste. Et nous avons dans ces actions des éléments qui concernent justement notre sujet. Alors premièrement, je lis dans la Nouvelle Bible Second, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors je ne lis pas tout, hein, et il y a le premier mot qui nous concerne, les hostilités. L'hostilité, ça veut dire le fait d'avoir des ennemis. On pourrait le dire d'ailleurs inimitié aussi. Des gens à qui on ne parle pas, des gens à qui on refuse de dire bonjour. Malheureusement, ça peut se produire dans l'Église. Ensuite, des disputes, toujours dans le chapitre 20 maintenant, non plus 19 mais 20, de Galates 5. Les disputes, des querelles, quand on se dispute à la sortie d'un culte par exemple, quand le ton devient glacial et quand peut-être on adopte une attitude d'énervement. Il y a ensuite, dans la suite du développement de Paul, les divisions. Alors les divisions, quand on réunit autour de soi un clan, autour d'une idée, autour d'une personne, et qu'on fait division. C'est qualifié dans ce texte de l'apôtre Paul comme une œuvre de la nature humaine marquée par le mal. Alors il y a aussi le mot suivant, les passions jalouses. Les fureurs, les ambitions personnelles, les divisions, les dissensions. Alors, je vais revenir simplement, je parlerai de passions jalouses et des fureurs, des ambitions personnelles un peu plus tard, aux dissensions. Alors, les dissensions, c'est un mot qui a donné en français l'hérésie. Ça peut avoir un sens positif, au sens d'une école de pensée, mais ça peut aussi avoir cette idée d'une école de pensée qui se sépare des autres, une hérésie séparatrice, sectarisme en quelque sorte. Et puis il y a aussi, je l'ai lu il y a un instant, les fureurs, dans la Nouvelle Bible Second, ou la colère, les accès de colère, l'expression de la colère. Plaise à Dieu que dans notre Église, nous n'ayons pas ces expressions vives et qui peuvent être extrêmement, qui peuvent avoir des conséquences très lourdes. Alors, justement, peut-être que nous nous disons, mais les œuvres de la chair, ces actions de la nature humaine, déchume, pécheresse, n'ont pas lieu dans l'Église. Permettez-moi de lire, en réponse à cet espoir, un petit développement d'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens, Paul est en train d'expliquer, en train de défendre son apostolat face à des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées et qui cherchent, en gros, à prendre sa place. Verset 19 de 2 Corinthiens 12. « Vous vous imaginez depuis longtemps, je cite, que nous sommes en train de présenter notre défense devant vous, c'est devant Dieu dans le Christ que nous parlons, et tout cela, bien aimé, nous le faisons pour vous construire. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas non plus tel que vous voudriez. » Et voilà pourquoi je cite ce texte. L'apôtre Paul dit ensuite, au cours du verset 20, « Je crains qu'il n'y ait des disputes, » et il s'adresse à une église, hein, « des disputes, des passions jalouses, des animosités, des ambitions personnelles, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. Comme quoi ces choses peuvent bien se produire dans une église. Alors l'apôtre Paul utilise des mots qu'il n'a pas utilisés dans Galates ici, notamment des médisances. Moi qui suis mulhousien, cela me fait tout de suite penser au Klapperstein. Le Klapperstein, c'est une grosse pierre que l'on suspend, c'est une forme d'une tête qui tire la langue, un visage qui tire la langue, et on suspendait cette grosse pierre, lourde de plusieurs kilos, au cou des personnes surprises en flagrant délit de médisance, de mauvaise parole. Alors, je ne veux pas dire que cette pierre pourrait encore être utilisée, mais quelque part, c'est quelque chose qui existe toujours, la médisance, malheureusement. Et puis, un peu plus loin, il est question de racontard dans ma traduction. Alors, c'est un mot qui peut vouloir dire chuchoter. Alors, on imagine la scène qu'au creux de l'oreille de mon voisin ou de ma voisine, je dis de telle et telle chose que je n'ai pas envie que d'autres entendent et que j'ai envie de dire discrètement à mon voisin des commérages, des racontards, des choses, des bruits de couloir, des choses qui ne devraient pas avoir lieu et qui ont malheureusement lieu quand même. Un peu plus loin, l'apôtre Paul, toujours dans 2 Corinthiens, parle de désordre. On pourrait appeler ça des agitations, des troubles qui sont jetés volontairement dans un groupe, dans l'Église en l'occurrence. Ces choses, nous devons reconnaître qu'elles existent parmi nous, que nous pouvons y tomber très facilement. Il faut être modeste et ne pas toujours dire que ce sont les autres qui le font, cela peut nous arriver. Voilà pour un petit passage en revue qui nous ramène à une position modeste et réaliste sur la question des conflits. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu quelles seraient les causes des conflits. Je tiens à dire que je suis redevable d'un livre qui s'appelle « Les conflits » de Jacques et Claire Pujol, et que ce livre, je le citerai à plusieurs reprises au cours de mon propos. Alors, premièrement, j'en ai déjà un peu parlé, les différences entre nous peuvent être causatrices de conflits. En soi, elles ne le sont pas, mais elles peuvent donner lieu à des conflits. Prenons quelques exemples bibliques pour illustrer et comprendre le deuxième chapitre de la lettre aux Galates. Galates 2, 11 à 14. Et là, c'est donc l'apôtre Paul qui parle, et il parle de l'apôtre Pierre, à qui il s'est opposé dans un repas à Antioche. Je lis, verset 11, « Lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, alors qui sont ces gens de chez Jacques ? Alors, ce sont des chrétiens de Jérusalem, où Jacques était responsable de la communauté. Et donc, c'est des gens qui étaient des juifs, pétris de culture juive, et qui s'étaient convertis à Jésus, et qui n'en avaient pas moins l'identité juive. Je reprends, verset 12. « En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les non-juifs. Mais après, donc les non-juifs, je m'interromps de nouveau, ce sont des chrétiens, mais d'origine païenne, non-juifs. » Et dans l'Église, on avait des juifs et des non-juifs, les deux se trouvant ensemble à confesser Jésus-Christ comme le Messie. Et c'était quelque chose d'assez violent, en tout cas pour les juifs, de se retrouver à manger, à faire église avec des non-juifs. Il faut savoir que culturellement, les juifs religieusement, les juifs n'avaient pas de relation avec les non-juifs. Et voilà que maintenant, ils constituent ensemble une communauté. Vous imaginez la difficulté que les Juifs avaient. Je reprends la lecture. Je reprends verset 12. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les non-juifs. Mais après leur venue, ils s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire des Juifs. Les autres Juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, voilà, et puis il a repris Céphas. Et on ne sait pas la suite d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a eu un conflit dû à une différence de milieu, de culture. Les uns venaient de Palestine, de Jérusalem, de Judée, et ils étaient juifs, habitués à manger entre juifs. Les autres étaient des juifs, mais habitués déjà à côtoyer des non-juifs et à manger avec eux, à avoir une vie d'église entre eux. Et puis, bien sûr, il y avait des chrétiens d'origine non-juive. Donc, ces différences de milieu ont donné lieu à des tensions, à des difficultés. On peut citer de nouveau Romains 14, nous l'avons cité à propos de l'accueil des faibles, mais il s'agissait du même genre de choses. Les uns se montraient, du fait de leur éducation, de leur milieu, de leur culture, très sensibles au fait de manger des viandes d'animaux sacrifiés dans le cadre de temples païens, idolâtres. Les autres étaient de l'avis contraire, pensant que les idoles, de toute manière, ce n'était rien, et on pouvait très bien manger ces animaux, ces viandes. Un autre exemple, cette fois-ci d'un dialogue plus difficile peut-être, je ne sais pas, raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Il s'agit de nouveau de l'arrière-plan juif de certains et de l'arrière-plan païen d'autres personnes. Je lis à partir du début du chapitre 15 du livre des Actes. « Quelques hommes qui étaient descendus de Judée » Alors, de nouveau, la Judée, c'est les mêmes personnes de chez Jacques qu'on a évoquées dans la lettre aux Galates. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères. Donc aux frères, c'est-à-dire aux chrétiens de la communauté qui étaient rassemblés là à Antioche. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc là, il prônait un retour aux observances juives pour les chrétiens, tous les chrétiens, y compris donc ceux qui n'étaient pas circoncis, autrement dit les chrétiens d'origine païenne. Paul et Barnabé, ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem devant les apôtres et les anciens pour parler de cette question. Une violente dispute, nous dit le texte. Alors, ça montre bien qu'il y a eu un conflit. Pour une raison, je dirais, là, on peut dire, de foi doctrinale. C'était plus qu'un repas, là, c'était vraiment un acte religieux, la circoncision. Alors, là on a la suite de cette dispute. Effectivement, il y a eu, à Jérusalem, ce qu'on peut appeler un concile, c'est-à-dire un temps où l'Église s'est rassemblée et a discuté d'une question. Et ça a donné lieu, le conflit c'est très bien résolu, a donné lieu à une décision, un mode de vie commune pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on vive en paix. C'est donc raconté dans la suite du chapitre 15. Un autre désaccord encore, toujours dans le chapitre 15, cette fois-ci au verset 39, enfin les versets 36 à 41. Là, il ne s'agit pas d'un désaccord doctrinal, mais une différence de point de vue. Et c'est entre Paul et Barnabé qui avaient fait cause commune pour la question des rapports avec le judaïsme que nous venons d'évoquer. Et là, c'est entre Paul et Barnabé que la tension se situe. Quelques jours après, je lis le verset 36, de acte 15 toujours, « Quelques jours après, Paul dit à Barnabé, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabé était décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc. Mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui, embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères de la grâce à la grâce du Seigneur. Il passait par la Syrie et la Cilicie, en affermissant les églises. Alors, le conflit, je relis, le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer, verset 39. Alors, il ne s'agit pas d'un conflit doctrinal, il s'agit d'un désaccord à propos d'une personne, l'un pensant qu'elle devait venir, l'autre pas, et ça a donné lieu à une séparation. La résolution de ce conflit, ça n'était pas que tout le monde se met autour d'une table et on trouve un modus vivendi, ça a été, on se sépare. Les différences, je conclue, sur les différences. Les différences entre nous peuvent être belles, mais peuvent aussi ne pas l'être. Et en tout cas, elles peuvent être donner lieu à des difficultés et peut-être des conflits potentiels. Différences entre hommes et femmes, par exemple. Elle est très belle, cette différence entre les hommes et les femmes, mais elle n'est pas toujours facile à vivre, et parfois cela peut donner lieu à des tensions, des difficultés. Les différences entre générations. Quand arriverons-nous à avoir un culte où les jeunes générations et les anciennes générations se retrouveront à apprécier toujours la même musique? Je crois que la musique au culte est un des points sur lesquels on a énormément de mal à vivre nos différences. Les différences de culture entre ceux qui viennent qui sont alsaciens, les autres qui viennent d'autres pays et qui habitent ici et qui ont fait leur vie ici, mais qui ont quand même gardé une autre manière de voir ou de voilà, ce sont des différences qui peuvent être belles, qui peuvent donner une très belle image de l'Église qui accueille tout le monde tel qu'il est, mais qui peuvent être difficiles et parfois donner lieu à des conflits. Nous devons en être conscients pour peut-être désamorcer des conflits potentiels. Puis il y a des différences, je crois, qui ne sont pas belles, les différences doctrinales. Il y a un seul évangile, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, dit l'apôtre Paul, et pourtant il y a 36 églises, et dans l'Église, des différentes positions sur des points de doctrine. Ces différences nous ramènent à une position, nous imposent une position humble. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas réussi, nous autres, les chrétiens, à être unis, à avoir une même doctrine parmi nous. Et ce sont des différences qui peuvent donner lieu, là aussi, à des disputes, et qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Nous devons le confesser. Il y a d'autres causes de conflit que je voudrais évoquer à la suite, non seulement des textes de l'apôtre Paul, mais aussi du livre sur les conflits que j'ai cité tout à l'heure. Dans Galates 5 et 2 Corinthiens 12, que j'ai lu tout à l'heure, je n'ai pas cité un certain nombre de choses, notamment la jalousie. La jalousie, alors c'est un mot en grec qui peut avoir une connotation positive ou une connotation négative. Et alors, quand il est comme une action de notre nature humaine marquée par le mal, bon, alors là, c'est clair que c'est une nuance négative. Il y a l'ambition personnelle. Alors, c'est un mot qui est difficile à traduire, qui l'a d'ailleurs été de manière variable et qui est utilisé par exemple quand quelqu'un joue des coudes pour monter en grade, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, mais dans cette idée de se développer lui-même au détriment des autres. Et puis il y a tout simplement l'orgueil. Alors je vais reprendre ces trois mots un peu plus en profondeur. Premièrement, je vais prendre l'ambition personnelle justement. Je le joins à la notion d'égoïsme. Et je vous propose, pour bien comprendre cette notion, de lire une description en quelque sorte, pas tout à fait le même mot qui est utilisé, mais sans pouvoir dire que c'est une idée très, très proche, la description qu'en fait l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 4. D'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous désirez et vous ne possédez pas? Rempli de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? Et puis Jacques continue en disant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc il y a ces trois choses de l'orgueil, de la jalousie, de l'ambition personnelle qui se mêlent dans ce texte. Et Jacques va très loin. Il parle d'adultère. Et là, il est en résonance avec les discours des prophètes de l'Ancien Testament qui comparaient le peuple d'Israël à une épouse qui trompait son mari avec d'autres, et le mari étant Dieu. Un mari qui souffrait de voir cette épouse infidèle s'éloigner de lui et aller vers d'autres hommes. Et les prophètes ont largement usé de ce registre et dans cette image de l'adultère. Et Jacques reprend cette idée de l'adultère, tout simplement parce que quelqu'un recherche son propre intérêt, se laisse aller à des conflits, à des disputes, parce que la personne ne cherche que son propre plaisir, son propre intérêt, n'a aucun souci pour les autres et ne se préoccupe pas de l'effet que son comportement a chez les autres. Et Jacques a raison. Il s'agit d'un comportement à courte vue. Vouloir développer, satisfaire ses propres plaisirs, ses propres aspirations, sans se préoccuper des autres, ça ne marche pas très longtemps. L'être humain est fait pour l'échange. Il se construit dans l'échange. Le bonheur que l'on se construit, on ne peut le construire qu'avec les autres. Et on ne peut pas prétendre ne pas avoir besoin des autres. C'est une réalité que nous devons bien prendre en compte. C'est un leurre que de s'imaginer qu'on n'a pas besoin des autres. Et donc, de vouloir construire, se développer soi-même, satisfaire ses aspirations et ses plaisirs, sans se préoccuper des autres, ça n'a pas d'avenir. Et Jacques va même plus loin en parlant de cette tromperie que l'on fait à Dieu lui-même, puisqu'il parle de l'adultère. Alors il y a la jalousie aussi que j'ai citée en premier. D'ailleurs, Jacques la cite, hein, cette passion jalouse au nom de laquelle on se permet de mal agir. Alors la jalousie, c'est quelque chose qui est très naturel. Par exemple, un petit enfant, lorsque vous avez deux enfants l'un à côté de l'autre, et si vous donnez une friandise à l'un, l'autre dira très naturellement: et moi, j'en veux aussi une. Si vous n'aviez pas donné un bonbon au premier, le deuxième ne l'aurait pas demandé. Donc, c'est ce que les auteurs du livre « Les conflits » que j'ai cités appellent le désir mimétique. On fait la même chose que ces personnes, des personnes qui sont à côté de nous. Alors, on dit ça des enfants, mais très honnêtement, les adultes, c'est exactement la même chose. Nous sommes de grands enfants à ce sujet, et donc nous sommes aussi dans un désir mimétique. Parfois, nous avons des frustrations aussi, c'est-à-dire que devoir sans arrêt de devoir renoncer à quelque chose qui nous ferait plaisir et de voir que les autres peuvent en jouir, nous créent des frustrations qui nourrissent la jalousie. Et cette jalousie peut aussi être nourrie par l'insécurité, le fait qu'on pense que les autres sont toujours mieux lotis que nous, qu'on a été rejeté, brimé dans notre jeunesse. Et du coup, la jalousie peut nourrir vraiment des conflits graves parmi nous. Et puis il y a l'orgueil. L'orgueil qui est une pulsion tout à fait naturelle et normale et qui malheureusement n'est pas à notre honneur. Elle est naturelle, cette pulsion, ce désir, mais ça ne nous construit pas. Permettez-moi de vous lire un petit extrait du livre sur les conflits de Jacques et Claire Pujol. Voici quelques caractéristiques, je cite, hein, « Voici quelques caractéristiques de l'orgueilleux. Il a la conviction qu'il est infaillible dans ses opinions. Il se croit seul capable de discerner et d'interpréter la volonté de Dieu. Il s'estime meilleur que les autres. Il est continuellement insatisfait. Il est ingrat, soupçonneux, ambitieux. Son cœur est dur, insensible. Il recherche les honneurs. Il refuse d'être connu pour ce qu'il est vraiment. Il est sa propre autorité. Ces attitudes entraînent inévitablement des relations conflictuelles. L'orgueilleux répugne à abandonner ses désirs pour l'intérêt du groupe, cherche à affaiblir l'autorité des autres, ne se soumet qu'à ceux qu'il a choisis, ne veut rien recevoir d'autrui, exige que les autres subissent les mêmes épreuves que lui, use d'un humour ironique et blessant, aime qu'on le supplie avant de faire quelque chose, critique, juge, est impatient envers les autres, les regarde de haut, se concentre sur leurs faiblesses. De toutes les sortes d'orgueil, l'orgueil spirituel est le plus désagréable. Je pense que nous nous sommes tous reconnus dans ces caractéristiques de l'orgueilleux, malheureusement. Et cet orgueil peut donc, et d'ailleurs la citation que je viens de faire nous le laisse penser très directement, très facilement, donne lieu à des disputes, puisque l'auteur parle de relations conflictuelles. Les auteurs, donc Jacques et Claire Poujol, donnent d'autres sources possibles des conflits dans un groupe humain, dans l'Église en particulier, notamment la colère. Alors la colère, pas comme un accès de colère, un moment où il y a un éclat de voix, mais une colère rentrée, une colère sourde, une colère intérieure qui reste, qui est ancrée dans nos cœurs. Et là, l'auteur donne, je vais de nouveau le citer très brièvement cette fois, il donne les effets de cette colère, de façon passive et de façon active. Comment cette colère s'exprime ? De façon passive, je cite, par ordre croissant d'intensité, le silence, l'irritation, l'exaspération, la jalousie, le dégoût, la fureur, l'aversion, la rancune, le ressentiment, la haine. Pas jusqu'à la haine quand même. Hein. De façon active, je cite toujours, le sarcasme, le commérage, on retrouve le mot que nous avions sous la plume de l'apôtre Paul, la mise en boîte, l'humiliation, la provocation, la calomnie, la malveillance, l'intimidation, les coups, la rage, le meurtre ou le suicide, qui est une colère contre soi-même. Alors je précise que ce livre concerne les conflits en général, pas que dans l'Église, parce que quand il parle du meurtre, j'espère quand même que nous n'en viendrons jamais là. Les manifestations de cette colère intérieure peuvent être vraiment difficiles, lourdes et de générer des conflits sans fin. Il y a aussi le caractère querelleur comme source possible des disputes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin d'exister en s'opposant, en trouvant toujours le truc qui ne va pas chez les autres. Et ce caractère querelleur, s'il a en face de lui un caractère du même ordre que lui-même, un autre caractère querelleur, ça peut donner des disputes, c'est pareil, inextinguibles. Il y a les causes inconscientes, c'est-à-dire des blessures que nous avons eues dans le passé, dans notre histoire de vie personnelle, qui font que certains sujets nous sommes très sensibles, hypersensibles, et nous réagissons de manière tout à fait anormale à une petite phrase, à une attitude qui, en soi, est anodine, n'est pas du tout destinée à causer une dispute, mais étant donné que ça correspond à quelque chose qui nous a touchés, nous a blessés dans le passé, plus ou moins lointain, nous réagissons de manière agressive. C'est tout à fait possible. Nous avons parfois peur des autres, parce que peut-être nous avons une image de nous-mêmes qui n'est pas bonne, pensons que les autres sont supérieurs à nous et sont toujours en train d'essayer de nous dominer et nous avons peur d'eux et alors du coup, mus par cette peur, nous avons des réactions agressives parce que nous pensons qu'ils nous attaquent alors qu'en fait il n'en est rien. Ce sont des causes de dispute, c'est cette peur des autres, cette mauvaise image de soi. Et puis, pour continuer, les sources possibles, malheureusement elles sont nombreuses, il y a la rigidité d'esprit et les préjugés. Nous pensons que pour être audible, un culte doit commencer à l'heure, les chaises doivent être rangées de telle et telle manière, la lumière doit être allumée ou pas allumée, ou allumée l'autre pas, etc. Donc, parfois, il y a des disputes sur des sujets extrêmement secondaires qui peuvent se faire sur une fenêtre qui s'ouvre, l'autre qui pense qu'elle doit être fermée, etc. Les préjugés aussi, quand on pense que telle population, telle nationalité, ils sont toujours ainsi, ils sont toujours comme ci, ils sont toujours comme ça, alors les préjugés sur les ethnies, hein, sur les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, telle génération, on peut avoir très rapidement des préjugés qui peuvent très bien donner lieu à des conflits parmi nous. Et puis il y a des difficultés relationnelles, dernière catégorie de sources de conflits possibles. Des difficultés de compréhension tout d'abord. J'ai dans mon bureau un petit papier qui dit la chose suivante, je le cite. « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. Et c'est une raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas bon, quand on a quelque chose d'un peu complexe à dire, il n'est pas bon de l'écrire, de l'envoyer par courriel par exemple. Il vaut mieux se parler de vive voix et voir, percevoir si l'autre nous suit, nous comprend autre chose, et pouvoir corriger de suite une mauvaise compréhension, une mauvaise expression qu'on aura eue de sa propre idée. Donc méfions-nous des incompréhensions qui sont souvent des causes de disputes. Il y a les rapports de pouvoir également. Pourquoi les Sadducéens ne voulaient pas de Jésus? Pourquoi les pharisiens ne voulaient pas de Jésus? Alors on peut évoquer plusieurs explications, mais une des raisons possibles, c'est que Jésus les inquiétait dans l'exercice du pouvoir. Jésus était un rabbin autrement plus calé que n'importe quel rabbin de l'époque. Pour les pharisiens qui se targuaient d'être ceux qui connaissaient la loi, c'était un danger, un concurrent. Les Sadducéens qui tenaient le temple, et Jésus qui parlait d'une autre manière, des sacrifices et de la nécessité d'entrer en relation avec Dieu sans forcément avoir des sacrifices, ben forcément que les inquiétaient aussi. Et dans l'Église, nous avons aussi un exemple dont Paul a souffert. Paul a été apôtre. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, il défend son apostolat. Il les défend contre qui? Contre des super-apôtres, du moins prétendus tels. C'est ce qu'il dit dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens. Et ce chapitre 11 nous fait entrevoir des gens qui visiblement critiquaient Paul pour prendre sa place. Je ne vais pas lire le début du chapitre 11, mais je ne vais du moins pas lire le tout. Mais ce que Paul dit au verset 5 est instructif. « Or, j'estime n'avoir été inférieur en rien à ces super-apôtres. » C'est donc que ces super-apôtres, si Paul est amené à dire ça, ces super-apôtres, ces gens, ces prétendus évangélistes ou missionnaires, se prétendaient, eux, supérieurs à Paul. Je continue la lecture au verset 6 de 2 Corinthiens 11. « Si je suis profane pour ce qui est de l'éloquence, » donc ça devait être des gens, j'interromps la lecture, « ça devait être des gens qui disaient que Paul parlait mal. » Si je suis profane, je reprends la lecture, pour ce qui est de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Et là, Paul se défend, il dit qu'il ne craint personne, il ne craint pas ces usurpateurs concernant l'enseignement. Nous vous l'avons clairement, je reprends la lecture, nous vous l'avons clairement montré de toute manière et à tous égards. Là, il y avait une lutte de pouvoir. Là, des gens dénigraient Paul pour prendre sa place. Que Dieu nous garde et que ce genre de choses se produisent dans l'Église, mais elles peuvent donner lieu à des disputes et à des conflits. Restons chez l'apôtre Paul pour un autre point, c'est la question des rôles de chacun dans l'Église. Aux Éphésiens, chapitre 4, de la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit que Jésus a donné les uns, alors les uns... certains hommes, c'est lui, verset 11, Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle. Alors dans nos traductions, nous avions évangélistes, c'est le mot, hein, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Donc on voit qu'il y a des rôles différents qui sont donnés dans l'Église première, primitive, et nous avons une liste plus large donnée dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 8, même un peu plus haut que le verset 8 d'ailleurs, verset 6, « Nous avons des dons différents de la grâce, des charismes, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement, celui qui encourage à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec joie. Donc on voit là que de nouveau, il y a des charismes, des fonctions dans l'Église qui sont données à l'un d'une manière, à l'autre d'une autre, mais que chacun doit exercer pour le service du Seigneur, de tous. Et ces rôles, nous le voyons aujourd'hui, peuvent être mal compris, mal définis. On peut y plaquer des obligations. On peut dire « lui doit se faire ceci, elle ne doit pas faire cela » ou inversement, etc. On peut y avoir toutes sortes de mauvaises compréhensions qui donnent lieu à des disputes. Et puis, une autre cause possible de dispute, c'est l'existence de groupes parmi nous. Prenons de groupes, de sous-groupes en somme. Prenons un petit récit du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Alors, chapitre 6, je vais vous lire tout simplement. Au début du chapitre, « En ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque. » Alors, il faut imaginer une église, donc dans le bassin méditerranéen, où il y avait plusieurs langues parlées, donc au moins deux, la langue grecque et la langue juive, la langue hébraïque. Et dans l'église, il y avait les deux groupes qui étaient présents, et ça ne se passait pas bien, visiblement. Alors, je reprends la lecture. Et les gens de langue grecque maugréaient contre les gens de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les veuves faisaient l'objet de la solidarité de l'Église. Et c'est quelque chose de très sensible quand même. Une veuve, c'est quelqu'un dont on prend soin. C'est quelqu'un qui est en situation de faiblesse et on l'honore et on en prend soin. Donc une veuve qui est négligée, ça peut susciter très vite de l'animosité, sentiment d'injustice que l'on va chercher à corriger, voire à venger. Bon, c'est quand même une tension qui est vive. Donc deux groupes existaient, le groupe des hellénistes, ceux qui parlaient grec, le groupe des judaïstes ou judaïsants ou hébraïsants, ceux qui parlaient hébreu. Alors, de nouveau là, ça a été bien résolu, c'est-à-dire que les 12, je lis le verset 2, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Oui, en fait, c'était à Jérusalem, cet épisode. Choisissez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Et puis, en fait, c'est l'institution de responsables qu'on appelle les premiers diacres, les premiers serviteurs de l'Église, qui étaient sept hommes dont on a les noms dans la suite du récit. Alors voilà une issue heureuse. Deux groupes qui existaient. Alors, ces groupes, dans le peuple d'Israël, existaient aussi. C'était, vous aviez, pas ces groupes-là, mais d'autres. J'ai cité tout à l'heure les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les zélotes, toutes sortes de factions qui existaient dans la société juive du 1er siècle. Et puis certaines existaient aussi dans l'Église. Et nous, dans l'Église aujourd'hui, il y a peut-être bien des groupes aussi. Je laisse à chacun le soin de déterminer quels peuvent être ces groupes. Mais j'ai cité tout à l'heure la question des générations. Il peut y avoir le groupe de tel ou tel genre d'origine, d'une même origine, que sais-je. Donc nous devons faire attention, l'existence de groupes, si elle est naturelle dans l'Église, ne doit pas donner lieu à des disputes. Alors, après avoir fait passer en revue les causes possibles, semble-t-il de parler de la résolution des conflits, comment en sortir. Ceci dit, de bien connaître les causes possibles et les sources de conflits peut nous aider à les éviter, ces conflits. C'est pour ça que j'ai passé en revue tous ces éléments. Je vais être très bref, en revanche, là-dessus, sur l'idée de sortir des conflits, parce que ça va être l'objet des groupes de discussion de la semaine prochaine, et donc nous irons assez vite ce soir. Alors, tout d'abord, je crois que la chose la plus importante, avant tout, quand on est en conflit, quand on craint un conflit, c'est de regarder en soi-même. Quelle cause moi j'ai à rentrer, me pousse-t-elle moi, à, quelle cause intérieure me pousse-t-elle à rentrer en conflit? Quelle blessure peut-être? Quelle peur? Quelle cause psychologique? Souvenons-nous de ce que l'apôtre Jacques a dit. Si vous avez des querelles, c'est parce que en vous-même, vous avez des causes, en l'occurrence, passion jalouse, ambition personnelle, etc. Égoïsme. Donc, je pense qu'avant de chercher des raisons doctrinales, d'un quelconque ordre extérieur à nous-mêmes, nous devons d'abord nous livrer à un examen personnel. Alors, l'apôtre Paul dit aussi, cite aussi dans les deux lettres à Timothée et dans la lettre à Tite, les disputes théologiques, les disputes de mots, les questions liées à la... Alors, dans la culture juive, on discutait beaucoup du sens des mots, de ceci, de cela, et on allait très vite dans des élucubrations qui s'éloignaient dangereusement de la simplicité de la lettre, je dirais. Et donc, peut-être nous, dans nos milieux d'église, on a aussi parfois tendance à partir dans des discussions assez hasardeuses. Et l'apôtre Paul dit bien à Timothée et à Tite d'éviter cela. Donc, ce n'est pas pour sortir des conflits, là, c'est plutôt pour ne pas y entrer. Et puis, permettez-moi de reprendre l'épître de Jacques, et cette fois-ci au chapitre 3, parce que là, Jacques nous donne, je pense, un élément de base. À la fois très simple, très basique, et en même temps affreusement difficile à mettre en œuvre. Jacques 3, 14 à 18. Verset 13, pardon, je commence au verset 13. « Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, ne soyez pas fiers. Et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Donc là, l'apôtre Jacques, nous l'avons fait, dénonce toutes ces disputes possibles, la cause de ces disputes. Et c'est là où ça devient difficile à mettre en œuvre, et pourtant, c'est l'appel qui est le nôtre. Verset 17, la sagesse d'en haut, c'est-à-dire celle que nous recevons, celle que Dieu nous donne par son esprit. On pourrait d'ailleurs comparer cette sagesse d'en haut au fruit de l'esprit que Paul cite en Galates, que nous lirons dans tout à l'heure. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Donc, on voit que l'apôtre Jacques, qui est extrêmement sensible à la traduction en pratique de la foi chrétienne, parle d'une foi, d'une sagesse qui est pacifique, conciliante, sans parti pris. Je cite les trois mots qui me semblent les plus proches de notre sujet de ce soir. Il y a aussi la lettre aux Romains, chapitre 12 et au verset 18. Dans le même esprit de la paix, s'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé. Et puis Paul continue pour dire que la justice appartient à Dieu. Nous avons vu les exemples, et quelques exemples, dans le livre des Actes des Apôtres, où devant un conflit, les apôtres ou les responsables ont provoqué une réunion, et où autour d'une table, on s'est forcé au dialogue, à l'écoute mutuelle, au lieu de se laisser libre cours à une guerre de tranchées. Et tous les désaccords ne se résolvent pas, il peut exister des choses sur lesquelles nous restons en désaccord. Il nous appartient donc d'éviter que ces désaccords deviennent des conflits. Pour cela, peut-être qu'il est bon de se mettre d'accord sur le fait des désaccords. Il est bon de dire ensemble, eh bien, sur ce sujet-là, les uns pensent d'une manière, les autres pensent d'une autre, chacun des deux parties, ou des trois ou des quatre, est respecté, et nous vivons ensemble malgré ces différences. Il faut en effet savoir vivre avec des désaccords. Nous ne pratiquons pas la pensée unique, mais au contraire, nous essayons de faire Église ensemble en tenant compte des différents désaccords qui existent en notre sein. Et donc cette idée de développer un esprit d'unité, de conciliation, de recherche de la paix, me semble important aussi. Et à ce sujet, je vais terminer mon propos en prenant la fin du développement de Paul au Galates chapitre 5, après avoir parlé des actions de notre nature humaine marquée par le mal, la chair, pour reprendre son vocabulaire, Paul souligne le fruit que porte le Saint-Esprit dans nos vies. À chacun de vous de regarder ce qui concerne notre sujet sur les disputes. L'amour, je cite, hein. Alors je commence le début du verset 22, pardon. Quant au fruit de l'Esprit, c'est, deux points, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi ou fidélité, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux. Cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Je vous souhaite de bons groupes dans les groupes de maison qui seront indiqués au culte dimanche prochain.